Oui, on a un certain nombre. On appartient aux retraités du CEA, à la SFEN, à Sauvons le Climat, et on fait souvent les conférences de tous ensemble. Et ce sont les retraités du CEA qui se sont constitué un groupe de travail qui s'appelait le groupe argumentaire sur le nucléaire. Ce groupe de travail s'était donné comme mission de faire des fiches argumentaires pour les retraités. Parce qu'une fois qu'on a quitté la maison CEA, ben on n'est plus dans le bureau CEA. Si on veut que les retraités restent des relais d'informations autour de leur entourage, il est important de constituer ce groupe. Donc ce groupe existe maintenant depuis les années 2000. On a rédigé environ une vingtaine de fiches argumentaires qui avaient comme objectif de faire des fiches d'informations relativement simples en vue de s'adresser au grand public. Ces fiches ont eu beaucoup de succès et on a créé un site internet. Et à la fin de l'année dernière, le président de l'ARCEA, l'association des retraités du CEA, a souhaité qu'on fasse une conférence sur le thème « Quelles énergies pour les générations futures, les défis à relever ?» L'idée était de dire « Les anciens du CEA peuvent donner de l'information aux jeunes. » Et cette conférence a été prévue le 1er décembre 2016, ça s'est fait à Paris, au CISP. Et il y a un certain nombre de conférenciers donc, de ce groupe qui ont présenté des conférences. On a eu, en fait, si vous voulez, l'objectif était très bon. Ce qui a moins bien fonctionné, c'est qu'en fait, on a encore parlé plutôt à des anciens qu'à des jeunes. Voilà, c'est toujours le même problème qui revient. On a quand même du mal à mobiliser les jeunes. Et on a un certain nombre de conférences qui ont été faites par un certain nombre de personnes. Et on a pensé que ces conférences, maintenant, il fallait les transmettre. Et donc, j'ai mobilisé Patrice Clément, c'est un des conférenciers, si vous voulez, qui a apporté sa contribution. Et je lui ai dit, écoute, au niveau de la SFEN de Bourgogne, on aura une assemblée générale, ce serait peut-être l'occasion que tu présentes donc de ta conférence. Il était d'accord, donc c'est pour ça qu'il est là. Tout à l'heure, on a parlé aussi de Jean-Pierre Pervès, qui viendra faire une conférence au prépa de Carnot. C'est un deuxième. Donc, il y a eu 6 conférences qui ont été faites à cette occasion-là. Et on est actuellement en train de les répercuter, si vous voulez, au niveau de la province. Alors, ceci étant dit, on les fait que ce soit à la SFEN, à Sauvons le Climat ou au niveau des retraités. Alors, qui est Patrice Clément? Moi, je le connais que depuis quelques temps. Il est nouveau au groupe argumentaire qui est devenu GAENA, groupe argumentaire sur les énergies nucléaires et alternatives. Et ce groupe continue donc toujours à fonctionner. Alors, Patrice Clément vient du CEA de Grenoble. Il a fait pratiquement sa carrière donc, dans ce centre. Je crois qu'il a fait une escapade à un moment donné au Japon. Je crois que c'est ce que tu m'avais dit. Et il est dans une... Il travaille beaucoup dans un groupe, je ne sais pas comment on peut le situer, dans l'ANCRE. Hein, c'est l'Alliance Nationale de Coordination de la Recherche pour l'Énergie. Donc il va nous parler, si vous voulez, donc actuellement... Donc, des énergies du futur et des ruptures technologiques. Voilà. Je ne dirai pas plus. Peut-être que tu pourras apporter des compléments si tu veux. Voilà. Donc, on va lui donner la parole. Et je pense que vous verrez que c'est des sujets qui sont d'actualité. Voilà. Patrice, tu as la parole.
Voilà. Donc, mesdames, messieurs, bonsoir. Donc, ma présentation va porter sur les énergies du futur et les ruptures technologiques. Donc, c'est un ensemble parmi les 6 conférences qui ont été présentées à Paris en décembre. que je vous recommande vivement. Hein, donc je pense que toutes les conférences sont accessibles au niveau du texte sur le site du GAENA, qui sera cité à la fin. Donc vous pourrez prendre la référence et y aller sur Internet. Donc je vais parler successivement des quatre chapitres suivants: le nucléaire, les renouvelables, les fossiles, et à quelle rupture on s'attend pour ces énergies du futur. Alors dans mes transparents, j'utilise un code de couleur. Ce qui est en vert, ce sont des technologies qui sont en cours de réalisation. Ce qui est en orange, c'est ce qu'on espère réaliser au niveau industriel avant 2050. Et puis ce qui sera en rouge, c'est au-delà de 2050, donc on verra probablement pas. Mais j'en parle quand même parce qu'il y a des choses qui sont sur du très long terme, comme la fusion par exemple. Alors, le transparent suivant, je vais commencer par un panorama des énergies nucléaires du futur, avec des réacteurs de fission, essentiellement la génération 4, avec deux filières possibles, la filière uranium-plutonium et la filière thorium. Je parlerai des réacteurs de fusion nucléaire. Alors vous voyez là que le code de couleur, vous allez comprendre très vite. Hein. Uranium-plutonium, c'est déjà en cours avec la génération 3. La génération 4, on l'attend pour très vite. La filière thorium, c'est un peu plus loin, en tout cas en France. La fusion, c'est beaucoup plus loin. Quand j'ai commencé à travailler au CEA, dans les années 70, on disait la fusion, c'est pour dans 50 ans. Le problème, c'est que 40 ans plus tard, on continue toujours à dire la fusion, c'est pour dans 50 ans. Mais enfin, bon, ça avance quand même. Il y a des choses qui se passent. Et d'ailleurs, ma fille travaille sur le site d'ITER à Cadarache, donc je me dis peut-être que ses enfants à elle verront la fusion au niveau industriel. On ne sait pas, mais on fait le pari. Et puis, la cogénération nucléaire, donc quelque chose qui n'est pas, en tout cas en France, pas très développé, dont je dirai quelques mots. Transparent suivant. Donc, la génération 4, alors pourquoi ça s'appelle génération 4? Parce que c'est un forum qui a été créé par 13 pays dans les pays européens qui visait à concevoir des réacteurs plus sûrs, plus économes, plus résistants à la prolifération et aux agressions externes. Alors ça a démarré, je pense que vous avez connu Jacques Bouchard, donc son impulsion a été forte, en tout cas au niveau français, et il y a eu 6 concepts de réacteurs qui ont été retenus en 2002, et parmi ces 6 concepts, la France a choisi le concept du réacteur à neutrons rapides refroidi au sodium. Bon, on comprend bien pourquoi, c'est qu'on avait un retour d'expérience assez fort à partir de nos prototypes Phoenix et du réacteur Super Phoenix. Le travail consiste à étudier un démonstrateur industriel qui s'appelle Astrid, hein, donc 600 MW électriques, avec l'ambition d'une mise en service industrielle avant 2050. Alors, bon, on pourrait mettre du orange là, hein, parce que c'est vert, parce qu'on a déjà fait des choses, mais c'est du orange si on veut passer sur la génération suivante, c'est-à-dire Astrid. L'intérêt de ce type de réacteur, c'est qu'il permet de réutiliser l'uranium appauvri et le plutonium provenant du parc de réacteurs actuels. Donc je rappelle qu'on a 270 000 tonnes d'uranium appauvri, donc ça correspondrait à plusieurs millénaires de production pour la France. Donc là, bon, c'est pas du renouvelable, mais plusieurs millénaires, c'est quand même pas mal. Ensuite, excusez-moi, il y a ma tablette qui me joue des tours. Il y a une autre filière, donc c'est transparent suivant, qui est ce qu'on appelle la filière thorium. Alors ça fait partie des 6 concepts retenus en 2002 pour les réacteurs de génération 4. C'est un concept qui est étudié par la Chine, l'Inde, le Canada, la Norvège. Il y a 3 petits points. Il y a aussi des Français qui travaillent sur ce concept. Hein. Vous en aurez une conférence. Voilà. Et à Grenoble, vous avez eu. Voilà, à Grenoble. cette filière a un atout, c'est d'avoir un cœur à combustible liquide. Le combustible liquide, c'est-à-dire que le thorium, les éléments fissiles sont dissous dans des sels fondus. Alors ça, ça permet de modifier un peu la conception de sûreté de ce type de réacteur. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails parce qu'il y a peut-être des gens ici qui en savent beaucoup plus que moi sur le sujet. Un des avantages, c'est que la ressource mondiale en thorium est plus abondante que la ressource en uranium. Donc on pourrait démarrer une nouvelle filière avec des perspectives intéressantes. Mais il faut développer un nouveau cycle de combustible avec tous les problèmes que cela peut poser, hein, puisque on sort de la filière uranium-plutonium qu'on connaît bien, pour laquelle on a développé le cycle qu'on a fermé. Enfin, qu'on espère fermer. Il reste le plutonium avec Astrid. Là, pour le thorium, il faut repartir à zéro. Mais on peut aider les pays qui se sont lancés dans l'aventure. Donc, ça offre des perspectives, au moins pour les industriels français du nucléaire. Ensuite, transparent suivant, il y a la fusion. Alors ça, c'est à plus long terme. Hein, c'est au-delà de 2050. On a encore... nos 50 ans là qui sont en perspective. Alors pourquoi la fusion? Parce que la fusion d'atomes légers, hein, sont des isotopes de l'hydrogène, produit beaucoup plus d'énergie par unité de masse que la fission d'atomes lourds. C'est dans le cadre d'études internationales que se développe le projet ITER. Alors ITER, c'est 35 pays qui coopèrent. C'est un prototype de réacteur à fusion de 500 MW qui est implanté, enfin qui est en cours d'implantation à Cadarache, sachant que bon, il ne produira pas d'électricité. Les 500 MW seront produits sous forme de chaleur. Mais enfin, ça sera déjà un pas supplémentaire dans la mise au point de ce type de réacteur. L'étape suivante, j'en parle tout de suite, bien que pour l'instant ITER n'est pas encore démarré, ça serait une machine qui s'appellerait DEMO, qui serait d'une puissance de 2000 MW et qui, elle, serait électrogène. Alors, d'ici 2050, il y a beaucoup de défis, hein, et d'obstacles à maîtriser. Donc, on n'a pas de perspective de démarrage de réacteurs industriels avant la deuxième moitié du 21e siècle.
Excusez-moi, c'est 2000
MW
thermique.
Oui, c'est 2000 MW. Donc c'est 4 fois ITER, mais avec l'espoir d'avoir mis au point d'ici là les moyens de transformer cette énergie, cette chaleur, en électricité. Alors avec des procédés qui pour l'instant ne sont pas encore connus, hein, sachant que le plasma, il fait plusieurs millions de degrés, et il faut sortir la chaleur. Mais ça avance. Par exemple, pour parler un peu du CEA, le projet WEST est en train de démarrer. Donc WEST, c'est l'utilisation du tungstène dans la partie divertor. Le divertor, c'est ce qui va à la fois assurer la récupération de chaleur et l'extraction des cendres. Alors cendres entre guillemets, hein, puisque dans un réacteur de fusion, les cendres, c'est de l'hélium. C'est sympathique comme déchets, voilà. Mais sauf qu'elles sont à plusieurs millions de degrés, donc il faut arriver à concevoir des outils pour pouvoir surmonter cet obstacle d'une très haute température. Donc l'extraction de puissance n'est pas simple. Et ce projet a démarré au printemps. Donc ça a été consisté à modifier le tokamak tor supra qui est à Cadarache, pour pouvoir étudier les matériaux qui vont permettre de réaliser ces divertors. Ensuite, une possibilité d'utiliser les réacteurs nucléaires pour faire de la chaleur pour les sites industriels. Alors c'est quelque chose qui existe déjà dans certains pays, comme l'ex-URSS, la Russie. On va utiliser donc la vapeur sortant d'une chaudière nucléaire entre 180 et 250 degrés, sachant que les procédés industriels en France, c'est 100 TWh qui sont essentiellement produits à base de fossiles. Et dans les études récentes qui ont été faites ces dernières années, on voit qu'il y aurait 22 TWh qui seraient immédiatement accessibles au parc nucléaire actuel. Par exemple, en utilisant tout ou partie des tranches comme un graveline pour alimenter les aciéries, les parcs industriels qui sont relativement proches. L'intérêt, c'est que là, le rendement, puisqu'on utilise directement la chaleur extraite du réacteur, il est bien meilleur que si on passe par de l'électricité. Donc il y a des balances à faire. Alors EDF, s'est longtemps rabouté sur son statut de producteur d'électricité et que d'électricité pour refuser ce genre de projet, mais on s'aperçoit qu'il y a des possibilités. D'autres possibilités seraient d'utiliser des réacteurs, alors là, pas forcément le parc actuel, mais de nouveaux réacteurs pour produire de l'hydrogène avec des réacteurs à haute température. Alors là, c'est à plus long terme, puisque là, il faut concevoir de nouveaux réacteurs. Alors, on va passer maintenant aux renouvelables. Alors, pour les renouvelables, il y a un certain nombre de solutions technologiques. Il y a le solaire photovoltaïque et thermique, l'éolien, les énergies marines, la biomasse et la géothermie. Donc, je vais les passer en revue successivement. Alors, sur le solaire photovoltaïque, on connaît tous le principe du photovoltaïque. Il consiste à transformer le rayonnement solaire en électricité à travers des capteurs qui vont réaliser la conversion directe énergie lumineuse en électricité. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas un rendement extraordinaire. Une dizaine de pourcents dans ce qui se fait couramment, alors 10, 15, on espère monter à 20. Donc les voies de projet, c'est d'augmenter ce rendement, puisque par mètre carré, on va dire qu'en France, on reçoit autour de 1000 watts d'énergie. Avec 20% de rendement, on pourrait récupérer 200 watts d'électricité. On n'y est pas encore. On est plutôt autour de 15 en ce moment. Alors, comment on va faire pour augmenter le rendement? On va utiliser de nouveaux matériaux, des couches minces, des multijonctions, des systèmes optiques à concentration, un suivi solaire par héliostat ou tracker. Donc c'est l'illustration là. On a des systèmes qui suivent la course du soleil. Après, il faut optimiser le cycle de vie. J'ai lu il y a quelques mois qu'on venait de passer le point où l'énergie qui a servi à produire les panneaux a été compensée par l'énergie produite par ces panneaux. Mais ça s'est passé en 2016. Ça fait quand même 40 ans qu'on fabrique des panneaux. Donc les gens qui vous disent « le solaire, c'est facile », c'est gratuit, il suffit de mettre des panneaux, on a quand même mis 40 ans à compenser l'énergie qu'il a fallu utiliser pour construire les panneaux avec la production des mêmes panneaux. Donc ça s'améliore bien sûr, mais le temps de retour, faut pas l'oublier. Dans le cycle de vie, bien sûr, il faut travailler sur des procédés de fabrication moins polluants, moins coûteux, augmenter la durabilité, travailler sur le recyclage des panneaux. Un autre gros problème, alors qui n'est toujours pas résolu, c'est la gestion de l'intermittence, puisque il y a du soleil le jour et encore, il ne faut pas qu'il y ait des nuages. Et donc, pas forcément au moment où on a besoin d'électricité qui est produite. On commence à avoir des solutions, mais je dis bien, c'est qu'un commencement, vous voyez, 2050, peut-être, avec des grosses batteries. Là, c'est des systèmes de batteries à électrolyte circulant. C'est ce qui nous semble actuellement le plus prometteur. on a découplé la taille de la batterie du volume d'énergie stockée. Alors qu'avec une batterie normale, si vous voulez stocker beaucoup d'énergie, il faut une grosse batterie. Ben là, vous avez un petit convertisseur et un gros volume d'électrolytes. Bon, on travaille. Le CEA, il travaille. Ça, je crois que c'est des prototypes qui sont développés en collaboration avec le CEA. Ensuite, il faut rendre les réseaux intelligents, c'est-à-dire essayer de gérer au mieux la production et la consommation. Il faut privilégier l'autoconsommation, parce qu'on va très vite tomber sur de la production décentralisée, donc c'est quand même dommage de faire chauffer les fils du réseau avec de l'électricité produite localement, si on a d'autres solutions pour la consommer localement. Alors, suivant, le solaire thermique. Alors, le solaire thermique, là, on transforme directement l'énergie lumineuse en chaleur. Alors, dans l'habitat, il y a un énorme potentiel de développement et il faudrait le concrétiser. Il faut fiabiliser les systèmes capteurs, stockage d'eau chaude sanitaire. Hein. C'est en France, en tout cas, la première utilisation possible. On peut imaginer découplage solaire thermique, pompe à chaleur, pour le chauffage comme pour la climatisation, c'est-à-dire on peut faire du froid solaire. Il faut continuer l'installation de centrales solaires à concentration. Actuellement, dans le monde, il y a 2 gigawatts installés en fonctionnement. Bon, pas en France. Hein. Il faut aller dans ce qu'on appelle la ceinture solaire, c'est-à-dire la zone subtropicale, pour produire de l'électricité ou faire du dessalement d'eau de mer, mais il y a un potentiel. Et là, de la même manière, il faudra développer des systèmes de stockage massif pour lisser l'intermittence. Vous ne pouvez pas imaginer que même dans les endroits comme les déserts, vous avez production de chaleur ou d'électricité pendant 8 à 10 heures, et puis le reste du temps, il n'y a plus rien. Et c'est quand même la nuit qu'on a besoin de s'éclairer, par exemple. Suivant. Alors, l'éolien. Alors, l'éolien, vaste programme. On en parle beaucoup. Il y a quand même des choses qui marchent bien. Ce sont les sites isolés. Qui permettent de minimiser le CO2 émis. Alors là, j'ai pris l'exemple de la Nouvelle-Calédonie, mais enfin, je pense que tous les territoires français d'outre-mer sont concernés. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut augmenter les rendements. Alors, augmenter les rendements, ça veut dire augmenter le facteur de charge, c'est-à-dire le temps pendant lequel l'éolienne est en capacité de production. Alors, il ne faut pas qu'il y ait trop de vent, il ne faut pas qu'il n'y en ait pas assez. Donc si on arrive à élargir la gamme, c'est possible. Les éoliennes Vernier, en Nouvelle-Calédonie, on a des alizés. Donc ça, c'est très bien l'alizé parce que c'est du régime constant, assez fort. Sauf que de temps en temps, il y a des typhons ou des cyclones. Ça dépend dans quel hémisphère on se situe. Et alors là, les éoliennes, un cyclone ou un typhon, elles ne supportent pas. Les éoliennes de 5 MW, vous ne les retrouvez pas. Donc au premier typhon, vous dites adieu. Donc en fait, il faut faire des éoliennes plus petites. Et celles-là sont rabattables. Voilà. C'est un exemple de bon, pas d'augmentation des rendements, mais de résolution de la problématique liée à ces régimes de vent. La gestion de l'intermittence. Alors, la première idée qui vient, c'est de coupler avec des équipements hydrauliques. Les premières éoliennes, elles ne servaient pas à faire de l'électricité, elles servaient à pomper de l'eau. Pourquoi ne pas continuer, hein, puisqu'on sait que le pompage turbinage, c'est quand même un des meilleurs systèmes actuels. Hein, c'est pour ça que c'est en vert. Sauf que des steps, il faut les réaliser. Alors en France, c'est compliqué parce qu'il n'y a pas beaucoup de sites. Dans les îles, il y a des solutions à l'étude. Il faut savoir que là, il y a de grosses résistances. Alors, c'est pas économique, c'est, on va dire, que les producteurs d'électricité sont pas les mêmes quand il faut faire du thermique à flamme, de l'éolien ou du turbinage dans des barrages. Et c'est très compliqué de les faire mettre autour d'une table et discuter.
Le rendement, à peu près, des éoliens, on dit augmenter les rendements le rendement actuel, il est à peu près de combien?
Bah, ça dépend où, mais en terrestre, on est autour de 20-22%, et en marin, en éolienne offshore, on est autour de 30%, mais avec quand même des problèmes différents. Le coût d'investissement n'est pas du tout le même. Et dans les îles, on peut arriver à 40%. Si on a des régimes de vent type alizé, c'est extrêmement intéressant. Parce que là, ça souffle de jour, de nuit, pendant de longues périodes. Ça ne s'arrête pas. Sauf que quand ça s'arrête, c'est qu'il y a un cyclone. Donc, faut avoir prévu le coup. Le problème de l'éolien, c'est que le stockage massif d'électricité, il coûte extrêmement cher. Donc 4 milliards d'euros par gigawatt, si vous comparez au prix, au coût d'investissement d'un réacteur nucléaire de 1 gigawatt. Voilà. Et pour l'instant, personne ne s'est encore lancé dans des stockages de cette taille-là. Transparence suivante. Alors, les énergies marines. Alors, les énergies marines, ça a démarré en France. On a les premiers prototypes qui ont été déployés, un potentiel estimé de 1 à 3 gigawatts, donc vous voyez que bon, ça ne fera pas tout, et loin de là. Mais enfin, c'est intéressant parce qu'on a encore une production intermittente, mais prévisible, hein, puisque c'est lié au courant de marée. Donc là, les marées, on sait parfaitement quelles seront leur amplitude et à quelle heure ça se passe. Pas d'impact visuel ou auditif, contrairement aux éoliennes. Alors, auditif peut-être pour les poissons, je ne sais pas, mais en tout cas pour les humains, pas trop de soucis. Les usines marémotrices, bah, ça existe depuis longtemps. La France a été un des pionniers dans ce domaine. Il y a peu de sites équipables, mais il y a un potentiel énorme. Si on prend la baie de Fundy, hein, qui est au Canada, entre la Nouvelle-Écosse et le Canada, il y a 40 gigawatts de potentiel. Donc là, ça commence à faire pour un seul site. Il y a déjà des petits morceaux qui ont été équipés. Ils n'ont pas encore barré toute la baie. Ça pose quand même quelques problèmes. L'énergie thermique des mers. Donc l'énergie thermique des mers, ça consiste à utiliser l'écart de température entre les grands fonds et les eaux de surface. Donc ça marche dans les zones tropicales, hein, puisqu'il faut qu'il y ait des eaux de surface de température assez haute, en tout cas supérieure à 20 degrés, 25, 30. Et donc ça concerne que les côtes tropicales. Mais par contre, là, le potentiel est considérable. Le seul obstacle, c'est le rendement, hein, puisqu'on a, à cause de Carnot, vous voyez qu'avec un écart de température aussi faible, on a peu de rendement. Donc ça veut dire qu'on investit des gros équipements avec un rendement faible. Mais c'est inépuisable. Transparent suivant. Alors, la biomasse. Est-ce que l'avenir est vert? Alors, on a commencé à travailler depuis une quinzaine d'années sur les biocarburants du futur, sachant que un des premiers biocarburants, ça a été le bois, hein, qui a été une des premières, enfin probablement la première ressource énergétique de l'humanité, avec la biomasse forestière. Pour les biocarburants du futur, on travaille sur des cultures énergétiques pour les agrocarburants de seconde génération, hein, c'est-à-dire des choses qui vont être réellement efficaces en matière d'énergie. Je rappelle que les agrocarburants de première génération, l'éthanol, le biodiesel, etc., grosso modo, c'est une subvention à l'agriculture, parce que énergétiquement, ça consomme pratiquement autant que si on avait mis directement l'énergie dans le... voire quelquefois même pire, que si on avait mis directement l'énergie utilisée pour les fabriquer dans le moteur de la voiture, ce qui est un peu gênant. Mais bon, ça permet de maintenir des agriculteurs, donc ça peut avoir une utilité, mais pas énergétique. Pour la troisième génération, on travaille beaucoup sur les microalgues. Alors, il y a des problèmes, hein, parce que il va falloir partager et mobiliser les ressources. Il va falloir modifier les pratiques culturales, utiliser probablement la zone maritime côtière, en tout cas pour tout ce qui est microalgues, et puis développer l'injection de biogaz dans le réseau, c'est-à-dire on va utiliser le réseau actuel de transport de gaz et y injecter du gaz provenant de la biomasse. Hein, donc là, il y a un petit exemple de photosynthèse de triglycérides directement dans une algue verte. Alors les microalgues, ce n'est pas pour tout de suite. Hein. On n'a pas encore résolu l'équation au niveau industriel. Il y a des prototypes. La production en pourcent de l'énergie consommée en France est vraiment confidentielle. Transparent suivant. Ça, c'est le dernier volet des renouvelables. Donc, la géothermie. Alors, il y a déjà des sites hydrothermaux qui sont exploités. Dans le bassin parisien pour le chauffage d'habitation, pour la production d'électricité avec la centrale de Bouillante en Guadeloupe, avec des extensions prévues et des augmentations de capacité prévues. Une autre possibilité, ça serait de faire de l'hybridation entre le solaire thermique et la géothermie, qui consisterait à utiliser la chaleur produite par le soleil l'été pour réchauffer le sol et puis l'extraire l'hiver par géothermie de faible profondeur. Donc là, il y a un petit schéma qui montre ce qui se passe dans les 20 premiers mètres du sous-sol, hein, en fonction de la saison. Donc on voit que il y a un réchauffement du sol. Donc on peut utiliser une partie de la chaleur stockée dans le sol pour chauffer par exemple des habitations. Et si en plus on arrive à inverser les courbes, on va pouvoir avoir un sol qui va être plus chaud l'hiver que l'été.
Quelle que soit la nature du sol ?
Il y a des petites variations, mais bon, c'est des moyennes. Hein, ça. Évidemment que si vous avez un sol avec des nappes phréatiques qui se promènent, là, ça ne marche pas bien, hein, parce que l'eau a tendance à balayer toute la chaleur que vous stockez, l'emmener ailleurs. Mais c'est pareil, ça, c'est pas pour tout de suite. Hein, vous voyez la couleur, c'est d'ici 2050, mais enfin, pour l'instant, on ne sait pas encore faire. On pourrait aussi utiliser de la géothermie profonde pour faire de l'électricité. Alors, il y a un pilote à Soultz, en Alsace, qui va chercher de la chaleur à 1300 mètres sous terre, qui commence à fonctionner, avec un certain nombre de problèmes à résoudre. Mais ça a démarré. Il y a des pilotes qui existent. Transparent suivant. Alors, est-ce qu'on va enterrer les fossiles ? C'est pas encore gagné. Il y a encore 82% d'énergie mondiale qui est à base de fossiles. Et ce pourcentage, il a pratiquement pas bougé depuis 50 ans. Hein. Donc on peut rire de la fusion pendant 50 ans, mais le basculement, la transition énergétique, etc., pour l'instant, ça fait 50 ans qu'on est toujours dépendant à 89% des fossiles. Alors, est-ce que on a des méthodes pour sortir de ça ? Alors, le premier inconvénient des fossiles, c'est l'émission de CO2 dans l'atmosphère. Alors, est-ce qu'on peut faire de la capture et de la séquestration du CO2 ? La réponse est oui. Je vous en parle après. Il y a une autre possibilité, c'est plutôt que de les sortir et de les brûler, c'est de faire de la gazéification in situ. J'en parlerai après aussi. Et puis, il y a encore une espèce de serpent de mer là, qu'on appelle l'hydrogène natif. Alors, parlons d'abord de la capture et séquestration du carbone, ou en tout cas du CO2. Pour l'instant, il y a des solutions, mais c'est trop coûteux, à la fois en énergie et en argent, en investissement. Après, il faudrait bien vérifier qu'on est capable de stocker, après l'avoir capturé, ce CO2. On n'a pas toutes les informations nécessaires, en particulier sur les aléas. Hein. Donc, une fois qu'on a capturé le CO2 et qu'on le stocke, il y a des problèmes de séisme, il y a les problèmes de transport déjà avant de stocker, il ne faudrait pas qu'on ait des soucis dans le transport du CO2, et puis des problèmes de relâchement accidentel. On a eu des relâchements accidentels de CO2, on va dire naturellement stockés dans des lacs volcaniques, ça fait beaucoup de morts. Alors, on a quelque chose qui marche, c'est de faire pousser les forêts, qui capte et séquestre le carbone autour de zones de forte émission. Alors ça marche déjà, ça existe déjà. Sauf que il faut revégétaliser massivement et puis utiliser des techniques de biorémédiation, parce qu'on pourra revégétaliser que des endroits dont personne ne veut, donc en particulier des sols pollués. Et puis il faut en faire beaucoup.
Alors plus. Oui. Je trouve que ça demande beaucoup de temps.
Ah ben, c'est un siècle. C'est un siècle. Oui, oui, mais là, le CO2, on est dans le siècle. Hein. Pour l'instant, nous, on brûle et on ne se pose pas trop de questions. Enfin, on commence à s'en poser, mais de toute façon, même si on s'arrêtait brutalement aujourd'hui de produire du CO2, tout ce qu'on a envoyé dans l'atmosphère, il faudra en gros un siècle pour l'absorber, l'éliminer. Donc c'est dans les mêmes échelles de temps. Je rappelle que ce qu'on est en train de faire avec les fossiles, c'est quelques centaines de millions d'années là qu'on est en train de brûler en quelques centaines d'années. Hein? Donc voilà. Donc on devrait être content qu'il n'en fasse pas autant, il n'en faille pas autant pour les remettre au fond. Un siècle, c'est rien dans ces échelles. Transparent suivant. Donc une des possibilités aussi, puisque il y a des gens qui ont du charbon, les bienheureux, on sait qu'ils l'exploiteront. Alors il faut essayer de trouver des moyens de ne pas mettre tout le CO2 qui est dans ces gisements, enfin tout le carbone sous forme de CO2 dans l'atmosphère. Alors on peut utiliser ce qu'on appelle la gazéification in situ, c'est-à-dire faire de la combustion partielle dans le gisement. On injecte de l'oxygène, de la vapeur d'eau, on produit essentiellement du méthane, et on réinjecte le CO2 produit dans le gisement. Alors ça, c'est intéressant parce que ça évite les contraintes de l'extraction mécanique, c'est-à-dire qu'on ne fait pas des puits de mine, qui est une industrie à haut risque. On maximise les quantités d'énergie extraite et on évite la pollution de l'air par les particules fines. Tout reste dans le sous-sol. Mais bon, on ne sait pas encore bien qu'est-ce qui se passe quand on fait brûler un filon de charbon sous nos pieds. Donc là, il y a des études en cours. Hein. C'est des choses qui ne sont pas encore. Il y a déjà eu des essais, mais à échelle industrielle, ce n'est pas encore gagné. Transparent suivant. Alors, l'hydrogène natif ou naturel. Alors, on s'est aperçu qu'un certain nombre de sites dans le monde, en particulier à partir du moment où on fait du forage profond, où on a des sources hydrothermales, où on est dans des régions qu'on appelle des cratons, on a un relâchement d'hydrogène, ce qu'on appelle l'hydrogène natif, par la surface de la Terre. Il y en a un peu partout, en Russie, en Afrique, en Amérique du Nord et du Sud, aux Philippines. La question, c'est l'hydrogène, c'est un gaz particulièrement volatile, hein, il fiche le camp à grande vitesse, donc comment on peut faire pour exploiter ça, c'est-à-dire qu'il sort pas plus vite qu'on arrive à l'attraper. Alors il y a des possibilités, c'est la méthanation in situ, j'en dirai pas plus. Et, on a eu Gilbert vous a dit que je travaillais pour l'encre, on a eu quelques communications assez sensationnelles il y a 3 ans avec des gens du BRGM et de l'IFPEN Et puis depuis, il n'y a plus rien. Alors, on ne sait pas s'il n'y a plus rien parce que il ne s'est rien passé, personne ne fait, ou s'il travaille, mais que personne ne dit. Voilà. En tout cas, il y a des gisements qui sont exploités, hein, déjà, en Afrique et en Russie. Donc c'est un espoir. Bon. Alors, quelles sont les ruptures qui vont permettre d'utiliser toutes ces merveilleuses technologies? Alors je vais parler efficacité énergétique, parce que ça c'est la chose la plus, on va dire, la plus naturelle, pas forcément la plus facile, mais la plus naturelle. Mobilisation des ressources. Économie de matière, nouveaux matériaux, et puis je terminerai par les ruptures dites sociétales. Alors, transparence suivante. Comment on peut augmenter l'efficacité énergétique? J'en ai déjà dit quelques mots dans les panoramas précédents. Il faut maximiser les rendements et les facteurs de charge. Alors, il y a des projets d'éoliennes sans rotor à base de systèmes oscillants. Élargir le spectre utile en photovoltaïque, c'est-à-dire capter encore plus, enfin transformer encore plus du spectre solaire en électricité, par exemple les systèmes à hétérojonction. L'efficacité énergétique, c'est aussi une adéquation entre la production et la consommation. Alors il faut privilégier la cogénération, la coproduction, la récupération, minimiser les pertes d'énergie. Par exemple, par un choix optimisé des sites, hein, ça ne sert à rien de produire à 2000 km d'un endroit où on va consommer, hein, les beaux désertec, hein, faire l'électricité avec du photovoltaïque dans les pays du Maghreb et puis la consommer en Allemagne, ils se sont vite aperçus que c'était pas forcément énergétiquement pas très intéressant, et économiquement, alors là c'est calamiteux. Il faut développer absolument de nouveaux moyens de stockage, toujours à cause de l'intermittence de tout un tas de ces solutions. Il faut créer de nouvelles architectures système, gestion électrique et thermique des packs batteries, hein, puisque c'est un des principaux obstacles, c'est à la fois la sécurité et le vieillissement des batteries qui servent au stockage d'électricité, qui font que si la durée de vie elle est trop courte, ou si ça vous saute à la figure, vous n'allez pas le faire. Donc il y a des solutions en cours de développement, je vous en ai parlé. Le génie logiciel dans les réseaux, c'est-à-dire comment gérer au mieux le mix énergétique, c'est-à-dire des productions de base pilotables, des productions intermittentes, on va dire, connues, et puis des productions intermittentes fatales, c'est-à-dire quand elles sont là, il faut les prendre, mais on ne sait pas si elles vont venir ou pas. Transparent suivant. Comment mobiliser les ressources? Alors, il va falloir, on veut faire un mix énergétique, mais il va falloir s'appuyer sur la disponibilité des ressources. Donc, bien étudier les régimes de vent avant d'installer des éoliennes. Regarder quelles sont les durées, les profils d'ensoleillement avant de mettre du photovoltaïque ou du solaire thermique. Dès qu'on va passer sur des machines thermodynamiques, des systèmes à cycle, il va bien falloir regarder de près quelle disponibilité de sources froides, c'est-à-dire la température, le débit, la nature. Est-ce que c'est de l'eau, de l'air? Dans les déserts, il n'y a pas d'eau. Hein. Donc si on fait du solaire à concentration dans le désert, il va bien falloir trouver une source froide qui fonctionne. Mobilisation des ressources, ça veut dire aussi non-concurrence d'utilisation, par exemple des terrains agricoles ou des espaces maritimes, pour la biomasse par exemple. Et puis, bien regarder quelles sont les ressources en matière première minérale. Une chose qu'on a souvent négligée, mais qui commence à devenir assez prégnant, transparent suivant. Et en particulier, il va falloir travailler sur les économies de matière. On s'aperçoit qu'il y a une très grande variabilité des besoins en matière en fonction des technologies. Par exemple, sur l'éolien, on va, suivant la technologie d'éolienne utilisée, avoir besoin de 0,3 à 4 tonnes de cuivre et de 100 à 400 tonnes de béton par mégawatt installé. Donc vous voyez que bah, suivant l'endroit et suivant la ressource, ce n'est pas tout à fait les mêmes choses qu'il va falloir développer. Les ressources minérales de la Terre sont en voie d'épuisement. On voit que si on se projette à 2050, on a un besoin supérieur à tout ce qui a été extrait depuis l'origine de l'humanité. En cuivre, en fer, en terres rares. Bon, les terres rares, c'est pas vieux, mais... Et donc, il faut mettre en place de nouveaux critères de choix. Par exemple, ce qu'on appelle l'intensité matière pour les moyens de production. Et puis, la durée d'immobilisation sur les réseaux, les infrastructures. Quand vous construisez un réseau électrique, bah, vous utilisez du cuivre, de l'aluminium, des choses comme ça, qui sont immobilisées pendant... on va dire au moins un siècle, voire plus. Quand vous construisez une éolienne, vous utilisez du cuivre qui va être immobilisé pendant au moins 30 ans. Bon, tout ça, ça doit intervenir sur les choix. Et puis, les impacts des technologies de production et de consommation sur la qualité de l'air et de l'eau. Bon, ça, on le sait pour les fossiles, mais il n'y a pas que. Hein. On peut produire des panneaux solaires en foutant en l'air tout l'environnement autour de l'usine. Alors, une autre piste, c'est d'utiliser de nouveaux matériaux, donc des alliages plus légers, plus résistants, plus efficaces. Hein, à partir du moment où on va gagner en poids, en coût de fabrication, en utilisation, on va améliorer les rendements. Par exemple, en photovoltaïque, il y a un gros effort qui est fait en ce moment sur un matériau qu'on appelle les perovskites, qui permettent de doper les rendements en se passant de silicium. On va travailler sur des composants qui vont utiliser de la nanostructuration. Donc on va augmenter l'efficacité des batteries. Par exemple, là je cite le lithium-soufre, les piles à combustible, les électrolyseurs, de nouvelles membranes nanostructurées, des choses comme ça. Le stockage d'hydrogène ou le stockage de chaleur à base de nouveaux matériaux, éventuellement nanostructurés. On est en train de créer ce qu'on appelle des matériaux bio-inspirés. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on va mimer la biologie pour créer, par exemple, des hydrogénases, des molécules qui vont synthétiser l'hydrogène, ou bien des photocatalyseurs qui vont permettre aussi de produire de l'hydrogène à base de molécules qui vont imiter la photosynthèse. Qui a des faibles rendements, mais enfin, si on arrive déjà à fabriquer des molécules biomimétiques, ça serait extrêmement intéressant. Alors ça, c'est à très long terme, hein, tout ça. Et puis, enfin, transparent suivant, il y a encore des ruptures, parce que les ruptures technologiques, c'est bien, mais il faut aussi qu'il y ait des ruptures sociétales. Alors, les premières ruptures sociétales, c'est modifier les habitudes de consommation. Actuellement, on consomme quand on veut, comme on veut, voilà. Et on a des biais. Alors, il faudrait déjà instaurer un vrai prix de l'énergie, donc sortir des tarifs et obligations d'achat qui sont un non-sens énergétique et économique, à mon avis. Transformer ce qu'on appelle la taxe carbone en une contribution carbone généralisée, ce qui serait quand même déjà au niveau du vocabulaire plus acceptable, et puis considérer que l'énergie, bah, c'est un bien collectif au niveau mondial, donc il faut partager accès à l'énergie des pays en voie de développement, tendre vers l'égalité de l'empreinte carbone pour chaque habitant de la planète. On en est très 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 loin. Et puis, imaginer des scénarios et faire des expérimentations locales à échelle croissante pour voir si on arrive à développer des territoires qui soient en autarcie énergétique.
Comment on peut tendre vers l'égalité de l'empreinte carbone entre quelqu'un qui habite en Afrique et quelqu'un qui habite en Scandinavie ?
Alors, si on regarde, justement, vous citez la Scandinavie, c'est intéressant, c'est quand même ceux qui sont dans les pays, on va dire, développés, les moins émetteurs de CO2. Alors, la Suède, parce que bah, ils ont un parc nucléaire et puis ils n'ont pas fait la bêtise de tout foutre en l'air comme d'autres. Et puis la Norvège, ben, ils ont, alors ils ont une empreinte carbone parce qu'ils ont des gisements, mais ils ont énormément d'hydroélectricité. D'ailleurs, la Norvège sert de tampon au Danemark. Le Danemark, lui, est par contre un des plus gros pollueurs, enfin émetteurs de CO2 d'Europe. Pourquoi ? Parce qu'ils ont des éoliennes, mais leurs éoliennes, ben, quand il n'y a pas de vent, il faut bien qu'ils en fassent quelque chose. Alors, ils en envoient une partie en Norvège pour utiliser les barrages comme des steppes, hein, des stations de turbinage-pompage. Mais ils ont aussi beaucoup de centrales thermiques à flamme. Donc, ils ont du charbon, de la biomasse. Voilà. Alors, ben, l'Afrique, de toute façon, eux, alors ils sont émetteurs de CO2 parce qu'ils utilisent beaucoup de biomasse pour la cuisson. Mais bon, à un niveau, on va dire, domestique, hein, ça n'a rien à voir. Ils n'ont pas de grosses industries.
Est-ce que ce ne sont pas des grandes incantations de dire qu'il faut qu'on tende vers une égalité en empreinte carbone, alors que les situations sont fondamentalement différentes?
Oui, mais on voit quand même qu'entre l'Australien moyen, l'Américain moyen, qui émet 10 fois plus de CO2 que le Français moyen... Et puis l'Africain moyen qu'en émet peut-être, c'est pas 50 fois moins. Bon, il y a peut-être quand même des écarts à réduire, parce qu'il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. On sait que l'impact climatique, il va être global, à des degrés divers suivant la région, mais il sera global. C'est-à-dire que ça ne sert à rien de mener une politique en France ou en Suisse sur les émissions de CO2, parce que de toute façon... les nuages de CO2, ils traverseront les frontières dans la mesure où ils sont stratosphériques. Je crois qu'il y en a encore un, voilà.
Relier l'empreinte carbone au PIB également.
Oui, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Alors, c'est les demandes des dernières COP, c'était ça, c'était de dire... les pays qui ont un PIB important doivent faire plus d'efforts pour diminuer, pour permettre à ceux qui n'ont pas de PIB d'augmenter. Hein, l'idée, c'est on partage un petit peu, c'est-à-dire qu'on gaspille un peu moins.
Regardez quel est le rapport entre le PIB et les émissions de CO2. C'est ça qu'il faudra arriver à diminuer.
Oui, oui. Oui, oui.
Sans forcément diminuer le PIB, quoi.
Oui, alors voilà, le problème c'est est-ce qu'on est capable de faire ça de manière globale, c'est-à-dire concertée entre tous les pays du monde ou pas? Nous en France, on sait faire. On sait faire. On a des émissions de carbone rapportées à la production électrique qui sont très très basses. Bon. Après, il y a le reste de l'industrie, mais même le reste de l'industrie fait des efforts. Enfin, justement, à l'encre, là, on travaille avec les cimentiers et les sidérurgistes. Je peux vous dire que les gains sur les émissions sont assez importants. On aimerait bien travailler avec les Chinois comme ça, parce que eux, c'est pas tout à fait pareil. Bien que commence à y avoir une sensibilisation des sociétés à ces problématiques. Moi, j'ai passé 15 jours à Shanghai. Quand on voit tout le monde sortir avec un masque, ça fait drôle. Et que l'air est jaune, enfin le brouillard est jaune, ça. Et je suis pas allé à Pékin.
Ok, merci.
Il y a peut-être quelques autres questions qui ont été posées au fur et à mesure.
Alors oui, je voulais dire que toutes les illustrations là, ça a été soit pris dans les...